Je vous ai concocté un récit subjectif de l'année 1985. Cette année-là, Yves Mourousi triomphe au journal de 13 heures. L'affaire du petit Grégory est au paroxysme du grand n'importe quoi. Les Russes veulent réduire leur consommation de vodka. Et les coups d'éclat d'une grande gueule parisienne, Marcel Campion, le forain.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1985.
En 1985, le journal de 13h de TF1, qui est toujours une chaîne publique, est présenté par un journaliste punk.
Bonjour.
En 85, Mourousi est le présentateur le plus populaire des journaux télévisés. Et il ne craint pas de programmer les invités les plus inattendus. En avril 85, par exemple, il reçoit le groupe de New Wave, Frankie Goes to Hollywood, groupe phare de la scène homosexuelle des années 80.
Là, votre emploi du temps de l'après-midi. Un petit repos.
We're all going to the Louvre.
Nous allons tous au Louvre.
Ça, c'est très bien. Vous n'allez pas chez le coiffeur rechanger de couleur, non?
Nous n'allons pas chez le coiffeur. Mais nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des petites bombes qui nous permettent de changer de couleur très rapidement.
Je vous signale que le Louvre, c'est en face de chez moi. Si vous voulez passer l'après-midi à la maison, ça pourrait être une très sympathique réunion.
Mourousi s'affranchit de tous les codes. Il s'autorise toutes les libertés. Comme quand il reçoit le cinéaste Jean-Luc Godard. Le réalisateur n'est pas assis face au journaliste, hein, mais il est debout aux côtés d'un caméraman du plateau.
Jean-Luc Godard qui se trouve derrière la caméra 1, qui regarde ce que fait notre cadreur. Alors vraiment, c'est une des grosses escroqueries de notre époque, Jean-Luc Godard, la télé.
C'est-à-dire vous recevez pas mal d'argent, redevances, publicité, et à la fin, chaque président de chaîne a un gros problème pour dissimuler tous les bénéfices que ça fait. Moi, j'ai une petite entreprise de vidéo, je sais combien ça coûte, je sais combien coûte ce que c'est que la TVA, la taxe professionnelle. Je sais combien coûte un siège comme celui que vous avez fabriqué là et je pense que vous recevez beaucoup d'argent que vous ne savez pas où le mettre. C'est une bonne affaire, c'est pour ça que c'est très lié au gouvernement et au pouvoir dans tous les pays.
Yves Mourousi invente un style, l'interview spectacle. Et le 28 avril 1985, il ne renonce pas à son ton quand il reçoit le président François Mitterrand pour une émission intitulée « Ça nous intéresse, monsieur le président ». Il vient carrément s'asseoir les bras croisés sur la table à laquelle est assis le président de la République. Et le ton de l'interview est totalement nouveau pour un entretien politique.
Bien, monsieur le président, je voudrais savoir si la presse s'est fait écho de certainement une question que j'allais vous poser. Pour savoir si, dès le début de cette émission, vous êtes un président chébran. Vous savez ce que c'est que chébran ?
Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire branché, bien entendu. Je ne vais pas faire le malin ou le très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé.
J'aurais dû dire câblé, très bien. Un beurre ?
Un beurre, eh bien, ce sont les immigrés de la deuxième génération. C'est-à-dire français. Et qui n'ont pas trouvé suffisamment leur place dans une société qui devrait la leur faire.
Le Smurf ?
Le Smurf, ben, écoutez, je ne suis pas omniscient. Simplement, je regarde.
Non, mais vous êtes un homme de mots.
Je regarde la télévision. Je vois bien que quand je vois Michael Johnson danser admirablement, des capacités d'acrobatie extraordinaires dans de courts vidéoclips à partir du trottoir. Je crois d'ailleurs que c'est né, me disait-on récemment,
sur le trottoir.
New York, sur le trottoir. Je trouve que c'est une forme d'expression artistique, de la danse rythmique, très remarquable.
Évidemment, ce passage de Mitterrand chez Mourousi fait causer. Il fait causer notamment le journaliste Yvan Levaille sur Europe 1.
Si François Mitterrand est une grenouille, Yves Mourousi est un chat. Sensuel, élastique, il n'a pas son pareil pour retomber toujours sur ses pattes et avancer aux frontières du showbiz et de la politique, sans rien déranger. Hier soir, en quelques sauts raides, dont certains surprenants, notre président batracien a bien suivi le chat Mourousi. Tout le monde en est très content aujourd'hui, puisque démonstration était ainsi faite que le président de la République était branché, câblé, et que la télé était moins craignos que ne l'affirment opposition et presse spécialisée. Satisfait, les modernes, pour qui la télévision c'est d'abord un rythme, un fluide d'image hétéroclite qui passe et s'organise ensuite, si possible, dans le cerveau et peut-être dans le cœur du téléspectateur. Satisfait, les experts en communication qui peuplent les allées du pouvoir et travaillent à monter avec mille astuces et procédés les courbes de popularité. Ces hommes-là se demandaient depuis longtemps si François Mitterrand ne gagnerait pas à se montrer plus bondissant que littéraire et plus branché que cultivé. Eh bien, ils peuvent se frotter les mains ce matin. Là-dessus, c'est gagné. Sans bouder le plaisir de l'inconditionnel consommateur d'événements télévisuels et sans l'esprit chagrin du journaliste politique dépossédé, il faut néanmoins s'interroger ce matin. D'où sont venus cette espèce d'ennui et de superficialité à laquelle ni Mitterrand ni Mourouzi ne nous avaient habitués? Et pourquoi diable, à part le refus présidentiel de se soumettre à Reagan ou aux ogres boulimiques de l'opposition, pourquoi diable reste-t-il si peu de choses des 100 minutes d'hier soir?
Le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, Jean-Claude Gaudin, estime lui aussi que cette interview n'était qu'esbrouf.
Je crois que M. Mitterrand est à la recherche d'un look. Il ne sait plus qu'inventer pour essayer de convaincre les Français à sa politique. Et le président de la République tente de suivre, me semble-t-il, les conseils des agences de communication, faire de la politique en parlant au maximum d'autre chose. Dans cette émission d'un nouveau genre, le président de la République a voulu faire moderne, mais à mon avis, il a fait plus mitterrandien que nature. Vraiment, il n'y a que lorsqu'il parle de théâtre, d'architecture, de haute couture, qu'il est convaincant. Sûrement pas. Lorsqu'il évoque les difficultés de la Nouvelle-Calédonie, les problèmes du chômage, ou la baisse du pouvoir d'achat, ou encore, lorsqu'il devient totalement amnésique sur les ventes d'armes. Le président de la République est encore moins crédible lorsque, très satisfait de son bilan, il réclame un second septennat pour la gauche. Vous savez, les Français qui ont hâte de voir se terminer ce septennat et qui ont déjà du mal à supporter le premier n'en souhaiteront sûrement pas un second.
Jean-Claude Gaudin a tout faux, car il y aura bien un second septennat Mitterrand et n'en déplaise aux grincheux. Ce genre d'interview politique va devenir de plus en plus fréquent.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1985.
En février 1985, ça fait 4 mois que Grégory Villemain a été assassiné. Un suspect est en prison, son lointain cousin Bernard Laroche. Mais le 4 février 1985, la justice libère Laroche.
Deux éléments ont permis à Laroche de retrouver aujourd'hui sa liberté. L'annulation des expertises en écriture qui le dénonçaient comme étant le corbeau et donc l'assassin de Grégory, et les rétractations de sa jeune belle-sœur, Muriel, qui a redit mardi dernier au juge avoir menti le jour où elle accusa Laroche d'être l'assassin de l'enfant. Cela dit, Laroche reste inculpé d'assassinat et sa libération ne le lave pas de tout soupçon. Seulement, en l'état actuel du dossier, le juge ne pouvait pas refuser cette demande de mise en liberté. Son intime conviction était d'ailleurs ébranlée depuis quelques semaines et il avouait même en privé ne plus croire qu'à 50% à la culpabilité de l'assassin présumé. Dernier élément qui a pu déterminer sa décision, il y a 10 jours, la veille de la confrontation entre la petite Muriel et les gendarmes, le juge Lambert a refait chronomètre en main le trajet désigné par l'adolescente lors de ses aveux. Trajet difficilement réalisable semble-t-il, même en conduisant très vite, compte tenu du temps qui s'est écoulé entre l'heure de la disparition et celle de la mort de Grégory, c'est-à-dire 23 minutes.
Avec la libération de Bernard Laroche, cette affaire connaît un rebondissement qui excite les journalistes. Si Bernard Laroche n'est pas coupable, alors pourquoi est-ce que ça ne serait pas la mère, Christine?
Est-ce que ça vous paraît concevable qu'on puisse vous soupçonner en tant que mère de la victime? Non, c'est vraiment... c'est pas français, mais c'est vraiment dégueulasse. Parce que de toute façon, on était très heureux tous les trois. Je vois pas ce qui nous aurait rapporté que je fasse un truc comme ça. J'adorais mon fils et mon ménage. On était très bien ensemble.
Christine Villemain vit très mal ses soupçons. D'autant qu'elle est enceinte de quelques mois. Épuisée, elle est hospitalisée et elle perd l'un des jumeaux qu'elle porte. Et le 29 mars 1985, C'est le coup de théâtre.
À 13h15, Bernard Laroche revient comme d'habitude de son usine d'étissage en selle. Il gare sa 305 verre bronze devant son chalet d'Aumont-Zé et s'apprête à rentrer chez lui pour déjeuner. Autour de lui, c'est le calme de la forêt. Soudain surgit d'un bosquet Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. Les deux hommes restent face à face quelques instants. Bernard tente de raisonner Jean-Marie. Rentre, on va s'expliquer, tu sais que je n'ai rien à voir là-dedans. Pour toute réponse, il reçoit une décharge de chevrotine en plein poumon et s'écroule avant que son beau-frère Lucien ait le temps de s'interposer. Marie-Ange Laroche assiste impuissante à la scène. Son mari décède quelques instants plus tard au pied du chalet. Jean-Marie Villemain a longuement prémédité son geste. Le matin, il rend visite à sa femme Christine, toujours hospitalisée à Épinal, puis file à Bruyères pour chercher son fusil de chasse. Une fois son forfait accompli, Jean-Marie retourne voir Christine à la clinique, d'où il appelle le commissariat pour avouer son crime. Il se rend sans résistance un peu plus tard. Alors que s'est-il passé ce matin dans la chambre 108 à la clinique de la Roseraie? Christine et Jean-Marie ont longuement parlé, ont-ils évoqué l'assassinat de Laroche ou est-ce l'œuvre de Jean-Marie seul? Une chose est certaine, Jean-Marie traquait Laroche depuis des semaines et il avait déjà passé une nuit entière à attendre son cousin, mais l'arrivée d'un tiers l'avait alors empêché d'accomplir son forfait. Excédé par la longueur de l'enquête et les soupçons portés sur sa femme, Jean-Marie Villemain a craqué. Il est entendu à l'heure actuelle par les enquêteurs qui l'ont placé en garde à vue. De cette audition sortira peut-être de nouveaux éléments pour la suite de cette tragique affaire. Épinal, Laurence Lacour, Europe.
Que s'est-il passé hier matin dans la chambre 108 de la clinique de la Roseraie à Épinal? Jean-Marie Villemain y rejoint sa femme Christine vers 9h. Il en ressort à 12h30. C'est pour aller abattre Bernard Laroche. Pendant 2h30, que se dit-on? Et si Christine, après plus de 5 mois, venait enfin de donner un élément nouveau, voire même de lâcher un aveu à son mari? On y pense bien sûr car cela expliquerait que Villemain décide de supprimer un homme qui peut, un jour ou l'autre, salir la réputation de la maman de Grégory. Laroche mort, c'est un témoin gênant qui disparaît. Ce n'est plus seulement par vengeance qu'on le tue, c'est aussi par prudence.
Commentaire de Maître Garot, avocat des parents du petit Grégory. Ce drame était inévitable.
Perdre ses enfants, c'est contraire à la nature. Et perdre son unique enfant, assassiné par un autre, c'est du drame encore plus puissant, plus terrible. Et ensuite, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit sur cette mère, sur cette suspicion, sur les premières pages de grands journaux où on disait « c'est elle » avec un point d'interrogation, tout cela ajoutait encore à la douleur et au drame des parents. Et voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Je crois, voyez-vous, que tout ce qui a été déballé sur la place publique a joué un rôle. Et tout cela devrait faire réfléchir tous ceux qui participent à l'œuvre de justice.
Tous les journalistes n'ont qu'une idée en tête. Interviewer Christine. Et c'est Jean-Pierre Elkabbach, ici, à Europe 1, qui décroche la timbale.
Découverte avec Christine Villemain, chez votre grand-mère, Jeanne, à Petit-Mont, en Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire vraiment dans votre territoire, même dans votre maison natale. Alors dans cette affaire Grégory qui est devenue l'affaire Laroche, puis l'affaire Christine Villemain, on sent que les soupçons vont et viennent, et que maintenant, ou cette fois, ils se resserrent sur vous. Vous le savez, vous le sentez.
Oui, je le ressens.
Encore une fois, je voudrais dire que nous ne sommes ni des policiers, ni des juges, ni des jurés, mais que nous essayons de comprendre, aujourd'hui, Christine, avec votre aide, et en particulier, la demi-heure du drame entre 17h et 17h30, le 16 octobre dernier, avec toutes ses conséquences. Pourquoi, à votre avis, on vous a frappé de cette façon en touchant Grégory? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison?
Je ne sais pas. Mais le type, là, il nous a fait du mal pendant 2 ans. Et il nous détruisait, il nous crevait les pneus, il nous a détruit la porte. On s'en sortait toujours. Il nous envoyait des lettres anonymes. On a acheté une R20, il nous en voulait, il n'arrêtait pas. Bon, ben, on a encore changé de 18. Mais enfin, pour nous, c'est Laroche. Il voyait qu'on vivait toujours bien, qu'on était bien. Et puis, il voyait ce que Grégory comptait pour nous. Hein.
Mais pourquoi est-ce que la lettre de revendication s'adresse uniquement à votre mari?
Ben oui, ça, je ne sais pas. De toute façon, les coups de fil n'étaient pas vraiment à moi. C'était toujours... Il parlait toujours du chef qui lui en voulait. Il voulait avec l'argent, tout ça, mais on n'en a pas plus que les autres.
Mais je crois que tout de suite après la mort de Grégory, quelqu'un a dit « ça doit être un crime de femme ».
Enfin, parce qu'il y avait eu trouvé des talons, je pense. Les traces de pneus avec des talons. Enfin, je ne porte pas de talons, hein. Donc les gendarmes, ils ont regardé mes chaussures. Hein. Je ne porte pas de talons.
Toutes vos chaussures?
Toutes mes chaussures, je ne porte pas de talons.
Ouais.
Et là, El Kabbach lui pose la question qui brûle les lèvres de toute la France.
Est-ce qu'il regrette d'avoir tué Bernard Laroche ?
Non, il ne regrette pas du tout.
Votre principale sortie maintenant, qu'est-ce que c'est ?
La prison. Je vais à Saverne 3 fois par semaine.
Vous restez combien de temps avec votre mari ?
Logiquement, on doit rester une demi-heure. Mais Jean-Marie demande toujours des prolongations, donc c'est au directeur d'accepter ou pas. Alors des fois, ça, 3 quarts d'heure, 1 heure, ça dépend.
On raconte qu'il soigne d'une certaine façon des angoisses avec des tranquillisants, qu'il a même tenté peut-être même de faire une bêtise. Est-ce que vous croyez que c'est possible qu'il fasse une bêtise dans l'état où il est ?
Non. Au début, quand il a été à la prison de Nancy, il prenait des cachets pour dormir. Depuis qu'il est à Saverne, ça va mieux, il n'en prend plus. Et il n'a jamais tenté de se suicider. Hein.
Et le doute ?
Le doute envers moi ?
Oui, ça ne gagne pas ?
Non, pas du tout. Les journaux, ils pourront marquer ce qu'ils veulent. Jamais il aura le doute. Hein. De toute façon, on n'a jamais douté l'un de l'autre. Hein. Quand on était embêté avant qu'on nous prenne Grégory, on ne s'est jamais posé la question si c'était sa maîtresse qui nous embêtait ou si c'était mon amant. Ça ne nous a jamais venu à l'idée parce qu'on a confiance en l'un, dans l'autre. Il n'y a jamais eu d'histoire comme ça et il ne doute pas du tout de moi. Hein.
Dans ce climat, il redoute, Jean-Marie, votre inculpation prochaine.
Non, parce que quand j'y vais, je pleure, je lui dis, tu te rends compte, ils vont m'enfermer, c'est pas possible. Il me dit, mais t'en fais pas, ils peuvent pas t'enfermer. Il me dit, tu rigoles. Il me remonte, mais enfin, lui, pas du tout. Hein. Il pense que c'est les journaux qui chantent ça et c'est tout. Hein.
Est-ce que cette scène terrible du 16 octobre, vous la revivez de temps en temps, je sais pas, en rêve ou en cauchemar ?
Oui, pas mal, oui. Surtout au début, je m'en voulais de l'avoir laissé dehors. Si je l'avais rentré comme les autres fois, il n'aurait pas pu le prendre. Hein. Il aurait fait mauvais. Et je m'en veux toujours à cause de ça. Hein. Je n'aurais pas dû le laisser dehors tout seul. Bon, des fois, ça m'arrive de me réveiller, d'avoir l'impression qu'il m'appelle au bord de la rivière. C'est assez dur quand même. C'est pas que j'ai peur d'être inculpée, mais ce qui m'embête, c'est que si je viens être inculpée, alors la roche, il sera lavé. Il aura son non-lieu et ça, moi, je ne le veux pas. Hein. Je n'ai pas fait de mal, je n'ai pas tué mon enfant. Je ne vois pas pourquoi qu'il aurait un non-lieu et que ce soit moi après qu'il soit suspect. Hein.
8 jours après l'interview, nouveau coup de théâtre. Christine Villemain, enceinte de 6 mois, est interpellée.
Eh bien, Christine Villemain a été interpellée vers 14h50 alors qu'elle sortait de la prison de Saverne en compagnie de son frère. Christine Villemain était venue rendre visite à son mari. C'est le commissaire Andrieux en personne, le patron de la PJ judiciaire de Nancy, accompagné des hommes de la brigade criminelle, qui est venu interpeller la jeune femme. Les policiers étaient porteurs d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction Lambert. Christine Villemain a été conduite ensuite au palais de justice. Elle y est arrivée peu avant 17h, les yeux rouges et à moitié en larmes. Et dans le cabinet du juge Lambert, à Épinal, l'attendait son avocat parisien, Maître Garraud. Alors que s'est-il passé dans ce cabinet d'instruction pendant plus de 2 heures ? Eh bien, le juge Lambert a signifié à la jeune femme les résultats des dernières expertises. D'abord, celle des graphologues, qui la désigne comme étant le corbeau. Ensuite, les résultats des expertises des morceaux de cordelette retrouvés chez elle à l'épange et qui seraient de même nature et qui proviendraient, dit-on, de la même bobine que celle qui entravait les mains du petit Grégory. Elle a pris connaissance également du volumineux rapport de synthèse des policiers, un rapport qui ne lui est pas trop favorable non plus. Et puis, vers 18h30, on apprenait l'inculpation d'assassinat de la jeune femme et sa mise en détention à la prison d'Épinal.
Après 12 jours de prison, dont 5 jours de grève de la faim, Christine Villemain est libérée. Elle ne sera vraiment innocentée que 8 ans plus tard, et aujourd'hui encore, l'assassinat du petit Grégory Villemain demeure un mystère.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1985.
En mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev déboule à la tête de l'URSS. Il est jeune et il détonne par rapport à ses illustres prédécesseurs.
À échelle humaine et en comptant sur ses doigts, l'URSS est le seul pays au monde dont on puisse facilement recenser les chefs d'État. Lénine, Staline, Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Tchernenko et Gorbatchev, le petit nouveau. Faites un effort avec moi. Lénine est mort en 1924, Staline en 53 et Brejnev en 82 sous Pierre Mauroy. Plus près de nous, Andropov n'aura tenu que 15 mois et Tchernenko 13. Voici Gorbatchev. Il avait 20 ans à la mort de Staline, 30 lorsque la nomenclatura déposa Khrouchtchev. Aujourd'hui, du haut de ses 54 printemps et du Kremlin où il rentre en maître, il peut se permettre de considérer tranquillement la fin du siècle. Le 31 décembre 1999, quand nous nous apprêterons à changer de millénaire, le cher Gorbatchev n'aura que 69 ans. C'est-à-dire l'âge qu'a aujourd'hui le président François Mitterrand.
Et deux mois plus tard, Gorbatchev ne choisit pas la facilité quand il décide de s'attaquer à un sujet que ses glorieux aînés ont refusé d'affronter.
En s'attaquant rapidement et de front au grand fléau national soviétique qu'est l'alcoolisme, Gorbatchev fait preuve d'un réel courage politique. S'en prendre en effet à Moscou à la vodka, c'est un peu comme si on s'en prenait en France à l'utilisation de la voiture. La vodka, c'était l'évasion, un droit fondamental des Russes, le seul peut-être, dont ils jouissaient sans restriction, précisément parce que partout et toujours, on trouvait de la vodka en URSS, ce qui n'est pas le cas des autres produits. Mais cette vodka provoquait bien des ravages. L'ivrogne est un personnage familier à Moscou. Chaque année, plusieurs millions d'heures de travail sont perdues à cause de l'alcool. La plus grande partie des crimes sont dus à la vodka, ainsi que les décès chez les jeunes et les accidents du travail fort nombreux. De ce fléau, le Kremlin parle depuis des dizaines d'années, mais jamais aucun remède n'a été trouvé. Dans les années 60, Khrouchtchev s'y était certes attaqué, mais il avait dû rapidement faire marche arrière devant les réactions très négatives de la population. Aujourd'hui donc, Gorbatchev revient à la charge. Ce sera en fait un excellent test politique. Pour faire passer cette mesure, il faut en effet un sacré pouvoir.
Les lois Gorbatchev pour lutter contre l'alcoolisme sont impopulaires, évidemment. On les appelle les lois sèches. En France, pendant ce temps-là, il ne viendrait à personne l'idée de toucher à la relation charnelle des Français avec leur Beaujolais. D'autant qu'en 1985, il se murmure que la cuvée est historique.
On a un millésime qui est tout à fait étonnant par sa qualité. Il va prendre place parmi les grands millésimes du siècle, pour la raison suivante, c'est qu'on a eu un ensoleillement rarement vu. Nous avons eu juillet et août magnifiques et puis on a eu septembre que je qualifierais d'été indien, qui a permis d'avoir une maturité optimum rarement égalée. Et ça, c'est dans tous les secteurs du Beaujolais. Alors ça nous donne un vin qui est complet, élégant. Enfin, c'est toujours les termes qu'on emploie, mais cette année, ils sont vraiment adaptés. Et à la dégustation, il est très long en bouche, comme disent les initiés. Et je dirais en qualité du vin, vous voyez, j'ai fait une comparaison entre le 83, le millésime 83. On l'avait défini là comme un coureur de marathon, c'est-à-dire solide, si vous voulez, un marathonien. Et puis 84, on avait dit c'était une belle fille. Alors je crois que le 85, il sera hermaphrodite, vous voyez, il aura la virilité du 83. Et la féminité du 84.
C'était Macumba du Toulousain Jean-Pierre Madère.
1985, Ondelat raconte sur Europe 1.
Et cette année-là, les forains font un gros coup médiatique en plein Paris. Dans la nuit du dimanche 1er décembre au lundi 2 décembre, à 3h du matin, du côté des jardins des Tuileries près du Louvre, 500 forains s'activent pour monter une foire au cœur de Paris. Au petit matin, les Parisiens découvrent le spectacle.
Je trouve que c'est très bien. C'est un emplacement idéal de refaire enfin les fêtes dans Paris, c'est très très bien. Celles qui existent, il ne faut pas les empêcher d'exister, voilà.
Si ça prend pas tout le jardin quand même, parce que tout le monde n'aime pas la fête foraine. Il faut réserver un petit peu d'espace vert, je sais pas, garder les fleurs.
Ah ben j'en pense, c'est formidable l'ambiance.
Moi je suis ravie que vous fassiez ça, parce que depuis le temps qu'on transforme les Tuileries en champ de foire, il était temps que ça serve à quelque chose. Il y a le salon du prêt-à-porter qui abîme toutes les pelouses tous les ans, hein. Il y a deux fois par an, les jardiniers mettent plus de fleurs aux Tuileries, elles sont vraiment transformées en n'importe quoi, je suis absolument ravie.
L'auteur de ce coup de force, le forain Marcel Campion, 45 ans. Il veut dénoncer des problèmes que rencontre la communauté des forains.
On est en colère parce que nous avons de plus en plus de mal à exploiter notre métier. Nous avons des entreprises et des familles à faire vivre et les emplacements deviennent de plus en plus rares. Et le ministère de la Culture auquel nous nous sommes adressés depuis 3 ans nous a refusé l'implantation de nos manèges comme ça pouvait se faire dans le temps à l'intérieur du jardin des Tuileries en nous disant que jamais ils s'installeraient quoi que ce soit. Et les ministères font une fête en ce moment aux Tuileries. Ils sont en train d'installer des forums, des chapiteaux, tout un tas de choses. Ça représente, d'après ce qu'on nous a dit, plus d'un milliard de subventions. Alors que nous avons une profession, nous travaillons avec nos métiers et nous ne sommes pas subventionnés. On a trouvé ça un peu curieux qu'on puisse laisser ces choses-là faire. Alors on vient faire la fête de l'enfance avec eux, avec les ministères, qu'on ces subventions. On installe nos 100 manèges autour de cette chose et apparemment tout le monde a l'air d'être bien content.
Une autre menace plane sur l'art forain. La nouvelle concurrence des parcs d'attractions qui vont fleurir en France.
Vous avez certainement entendu parler des Mickey, des Schtroumpfs qu'on va installer en France, des grands parcs de loisirs, des zones d'activité de loisirs. Et nous avons 50 000 entreprises foraines qui vivent en France. Et on ne prend même pas en considération que le fait d'implanter seulement à Marne-la-Vallée Disney World risque de faire disparaître plusieurs centaines de familles de forains qui exploitent et qui exercent leur métier dans tout ce secteur. Alors, il y en a assez, c'est un ras-le-bol. On veut retrouver nos places d'antan. Les Tuileries, c'est une place que nous avions d'antan. Nos grands-pères s'installaient dans le jardin des Tuileries, nos parents, moi-même j'ai exercé dans le jardin des Tuileries avec mon manège antérieurement. Il n'y a pas de raison qu'on nous chasse, puisque nous avons de plus en plus de mal à retrouver nos emplacements. On vient de force.
Mais au ministère de la Culture qui gère les Tuileries, on reste ferme. Pas question d'accepter ce coup de force des forains.
Nous savons au ministère de la Culture que les industriels forains ont des problèmes d'implantation en centre-ville et que ces problèmes viennent de terrains de plus en plus rares. Ceci étant, les forains sont entrés par effraction dans le domaine public des Tuileries, se sont installés avec des engins extrêmement lourds et nous portons plainte parce que nous souhaitons qu'ils s'en aillent de cet endroit, qui est un endroit fragile, qu'ils mettent en péril par leurs installations.
Finalement, comme cette fête foraine est très populaire, comme elle ravit les Parisiens, ah ben les forains ne seront pas délogés. Marcel Campion a réussi son coup et il glane son surnom de roi des forains. Life is life. Et ça, on est terminé pour 1985. On va se retrouver demain pour l'année 1964. L'épisode d'aujourd'hui est disponible dès maintenant avec les autres sur votre plateforme de podcast. Merci à mes forains, Guillaume Maury et Julien Pichenet, et à Guillaume Vassaud pour la réalisation. Vous trouverez sur votre application dédiée d'autres podcasts qui racontent d'autres années.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.